C'est un homme qui nous avait averti. L'accélération empêche l'anticipation, elle peut nous mener dans le mur.
On en parle comme d'une sorte de désespéré, de pessimiste acharné. Il était exactement l'opposé de ça. Il n'y avait pas le moindre pessimisme. Il y avait une sorte de jubilation permanente. Il avait cette capacité à percevoir des instants qui sont ceux où quelque chose commence, dont on ne sait pas où ils finiront.
Prénom ?
Paul.
Nom ?
Virilio.
Date de naissance ?
Janvier 1932, d'un père immigré italien et d'une mère catholique bretonne.
Sa formation ?
La main et l'œil à l'école des métiers d'art et auprès de grands maîtres verriers. L'oreille, comme auditeur libre à la Sorbonne où il écoute transporter les cours de Yankelevitch.
Profession ?
Ah bah la pluridisciplinarité en une seule personne. Verrier, peintre, architecte, urbaniste, photographe, philosophe, écrivain, éditeur, commissaire d'exposition.
Ses œuvres ?
Une gamme de vitraux avec Matisse, Braque, Rezvani et avec Claude Parent, l'église Sainte-Bernadette de Nevers.
Des livres ?
Ben, il aimait autant publier des articles de revue que des livres, dans Esprit, Cause commune, Traverse. Alors des titres de livres néanmoins, L'université du désastre, Le grand accélérateur, L'administration de la peur. On reconnaît là ses thèmes préférés, l'accident, la vitesse, la société du contrôle.
Et sa mort ?
En septembre 2018, à 86 ans. Elle a eu sans doute davantage d'écho à l'étranger qu'en France.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
À l'âge de 70 ans, Paul Virilio s'était retiré à La Rochelle. Il habitait un appartement au sommet d'un immeuble. Il aimait les vues panoramiques. En bord de mer, évidemment, parce que c'était un homme du littoral. Nous entendrons deux de ses visiteurs réguliers. Stéphane Paoli d'abord, bien connu des auditeurs de France Inter. Il lui a consacré un documentaire et lui dédie son dernier livre, Ce qui vient, aux éditions des Liens qui libèrent. Virilio a été pour lui un lien qui libère. Thierry Pacaud ensuite, philosophe, urbaniste, qui prépare la sortie au début de l'an prochain d'une revue qui sera dédiée à Virilio. Tous deux vont nous raconter le même rituel. Leur hôte descend de son dernier étage. Il s'est couvert la tête de sa casquette de marin. Il est arrivé à la gare de La Rochelle. Quel personnage !
Personnage tout à fait étonnant. Pas très grand. Extrêmement dynamique. Toujours habillé de façon étonnante. Un peu comme un militaire ou quelquefois même un peu comme un moine. Un très grand dépouillement. Mais toujours avec une veste multipoche. Vous savez, dans laquelle on peut mettre une quantité incroyable de crayons, d'objets. Il adorait ça. Et il se servait beaucoup parce qu'il prenait des notes souvent. Il aimait échanger. Et moi, Paul Virilio me laisse le souvenir d'un homme très jeune en réalité.
C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu en colère. Il avait un très beau rire du reste. Et sa colère était plutôt une dénonciation de quelque chose qu'il trouvait absurde. Et alors là, il y avait de quoi. Parce que il se nourrissait beaucoup de la presse quotidienne. Hein, il lisait abondamment. Il avait toujours une coupure de journal dans sa poche. Beaucoup de poches, beaucoup de stylos de couleurs différentes. Et c'était amusant parce qu'à chaque fois, il disait « Ah, est-ce que t'as vu ceci ? Est-ce que t'as vu ?» Alors, c'était toujours des mini-catastrophes ou des vraies catastrophes, ferroviaires en Inde, etc. Donc, il trouvait comme ça toujours l'entrefilet qui venait corroborer finalement sa thèse centrale.
C'est sur le même littoral atlantique où il s'est retiré, qu'il avait passé son enfance, un peu au nord de La Rochelle, à Nantes.
Il y a d'abord le fait qu'il soit enfant unique, je pense.
Plutôt la solitude, quoi.
Oui, une solitude qu'il comble, j'allais dire, de manière tout à fait heureuse, en lisant. très très tôt, vers 12-13 ans, il constate qu'il lit un livre par jour. Et du reste, on constatera par la suite que toute sa formation, puisqu'il n'a pas fait d'études universitaires, etc., ce qui du reste fait, à mon avis, qu'il est mal reçu par les universitaires et les intellectuels bien en place, eh bien, en font une sorte d'autodidacte. C'est-à-dire qu'il publie et il réalise une œuvre, incontestablement, sans être passé par les grandes écoles ou par la rue d'Ulm. Mais néanmoins, c'est un homme à la fois, je dirais, de parole, au sens fort du terme, c'est quelqu'un qui n'a qu'une parole, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est droit, et puis en même temps, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, et en même temps un homme de silence, parce que c'est un homme de méditation. Et donc, on pouvait, je me souviens très bien, on a marché plusieurs fois dans La Rochelle sans dire un mot. Mais, en fait, nous échangions.
Donc on ne parle pas pour postillonner dans tous les sens, on parle pour questionner, on parle pour écouter l'autre. Un exemple, directeur de l'école spéciale d'architecture, il avait inauguré une méthode avec ses étudiants. D'abord, vous dites quel projet vous paraîtrait le plus mauvais, puis vous dites lequel vous paraîtrait bon. Enfin, vous tentez de synthétiser celui qui serait le meilleur et qui envelopperait et dépasserait tous les autres. On parle aussi pour faire confidence. Et souvent, Virilio revenait sur une expérience primordiale, en 1943, subie à l'âge de 11 ans, alors qu'il habitait donc Nantes.
Le centre de Nantes a été affreusement meurtri. Voici ce qui reste des rues les plus commerçantes de la grande cité, situé bien loin de tout objectif militaire ou industriel. Ce bombardement, le plus lourd de conséquences qu'une ville de France ait jamais subi, a fait plus de 700 morts.
Il a vu s'effondrer en quelques instants tout ce bâti qui faisait finalement la chair de ses souvenirs d'enfance. Et pour lui, la rapidité de la disparition d'une ville qui lui semblait quelque chose de solide et de pérenne l'a profondément marqué.
Tout mon travail est parti de la guerre, s'est enraciné dans la guerre. Je suis un enfant de la guerre totale, j'ai vécu sous les bombes, j'ai eu tous les avatars des gosses pauvres pendant la guerre, et j'ai subi la guerre qui a été mon université. Donc, pour moi, la découverte de l'importance de la vitesse, je dirais, à côté et peut-être par-dessus la richesse, c'est à travers la guerre que je l'ai vécu. Parce que la guerre est le révélateur du progrès, comme j'ai appelé, dromologique. Hein. Dromos, c'est course, bon, c'est-à-dire de l'art de la vitesse, si vous préférez. C'est la guerre qui m'a permis tout d'un coup de révéler l'importance de la vitesse. La guerre ayant toujours été depuis les antiques jusqu'à la blitzkrieg du fascisme, le lieu de scénographie de la vitesse, à travers les assauts de la cavalerie, à travers la puissance maritime, à travers l'artillerie, à travers le laser aujourd'hui pour aller très vite. Donc ma vision est, je dirais, tout à fait critique. Je suis pas du tout un passionné de vitesse. Quand je dis que je suis un ennemi de la vitesse, je suis un ennemi, évidemment, de la vitesse technique. C'est-à-dire de cette course vers la fin, vers l'ubiquité, l'instantanéité.
Une autre expérience, mais d'après la Libération, on sait que les dernières années, 43-44, les Allemands avaient interdit le littoral qu'ils fortifiaient dans la crainte d'un débarquement. Le petit Paul Virilio n'a donc fait l'expérience de la mer qu'à 13 ans, en prenant le torail cahotant, qui menait alors lentement de Nantes à Saint-Nazaire et à La Baule.
Au cours de l'été 45, la paix retrouvée et l'interdiction levée réalisaient pour moi un seul et même événement. Les barrières enlevées, chacun était désormais libre d'aborder au continent liquide. Les occupants s'en étaient retournés dans leur hinterland natal, abandonnant avec leurs chantiers leurs outils et leurs armes. Les villas du front de mer étaient vides. On avait fait sauter tout ce qui obstruait le champ de tir des casemates. Les plages étaient minées et les artificiers s'activaient à rendre l'accès à la mer possible, ici et là. Le sentiment le plus clair était encore celui de l'absence. L'immense plage de la Baule était déserte. Nous étions moins d'une dizaine sur l'anse de sable blond. Les rues étaient dépourvues de tout véhicule. C'était une frontière qu'une armée venait à peine d'abandonner, et la signification de cette immensité marine était inséparable pour moi de cet aspect de champ de bataille déserté. L'autorail dans lequel je me trouvais et dans lequel j'imaginais la mer avançait lentement à travers le plat pays de Brière. Il faisait un temps superbe et le ciel au-dessus du sol bas s'illuminait, semble-t-il, de minute en minute. Cette brillance était en soi une nouveauté. La transparence à laquelle j'étais si sensible s'amplifiait encore aux abords de l'océan jusqu'au moment précis où une ligne, uniforme comme un trait de pinceau, vint barrer l'horizon. Un trait d'un vert gris, presque glauque, mais un trait qui courait de plus en plus vite aux limites de l'horizon. En avançant au milieu des maisons aux fenêtres béantes, j'avais hâte de ne plus avoir d'obstacles pour me masquer l'horizon atlantique. En fait, j'avais hâte de déboucher sur ma première plage. À mesure que j'approchais du boulevard de l'océan, le niveau d'eau s'élevait entre les pins et les villas. L'océan grandissait, occupant de plus en plus mon espace perspectif. Enfin, en traversant l'avenue parallèle au rivage, la ligne de terre sembla plonger jusqu'au ressac lisse, sans vagues, presque sans bruit. Un dernier élément se présentait à moi, l'hydrosphérique.
La ligne de contact, donc, entre la mer et le ciel, insaisissable, mouvante, le regard de Virilio sera toujours capté par cet horizon. Alors, encore une expérience fondatrice, en bord de mer, toujours, cette fois en 1958. Virilio est en vacances. Sur la plage, son regard se porte vers l'océan, et ce jour, il n'y a pas d'accident à noter. Et il prend soudain conscience qu'il est adossé à un bunker du mur de l'Atlantique. Le bunker, mais c'est bien sûr! Il se lève, il fait le tour de l'ouvrage de béton, il y entre, et les vacances sont finies, il va des années durant inspecter les côtes à pied, en voiture, pour photographier, traquer ces formes grises oubliées, ces hôtels de béton qui continuent de faire face, mais pourquoi? Au vide marin. Il en tirera une exposition, un livre, Thierry Paco.
Il est fasciné par la forme, c'est même tout à fait étonnant, par la forme arrondie du bunker. Car le bunker n'a pas d'arête géométrique, c'est pas un cube, il est arrondi. Et il dira dans plusieurs de ses livres qu'il est étonné par cette espèce d'architecture presque organique. Alors qu'en même temps, c'est l'architecture de la mort.
Quand on dit bunker, ça peut être assez beau à regarder, c'est assez brutal. Il a fait des photos magnifiques. Hein.
Stéphane Paoli.
Parce que c'était aussi un très bon photographe, Paul Virilio. Il a fait toute une série de bunkers sur les plages de Normandie et plus loin en descendant le long de la côte atlantique. Il avait un goût très marqué pour les bunkers. Et comme ces bunkers, d'ailleurs, s'enfoncent dans le sable au fur et à mesure que le temps passe et que la guerre s'éloigne dans la mémoire des hommes, les bunkers restent et s'enfoncent dans le sable. Et ils sont couchés dans le sable. Et je me suis demandé si cette idée de l'architecture oblique qu'il a créée avec Claude Parent n'était pas, initiée par la vision qu'il a eue de ces bunkers basculant lentement, comme ça, dans le sable, avant d'y disparaître complètement, peut-être un jour.
Paul Virilio, en compagnie de Jean Dève.
Il y a un paysage lié au bunker. Il y a le sable, la plage, la mer, l'horizon, le ciel.
Oui, c'est le lieu où tout s'échange. La terre et l'eau, le ciel, la terre et l'eau. Et puis aussi le Finistère. Et puis aussi, bien sûr, l'attente. Quand on est devant la mer, on est comme devant l'horizon, on attend ce qui vient. Ce qui vient, c'est au loin une voile, ce qui vient, c'est le débarquement. Et les bunkers sont des figures de l'attente. La plupart des bunkers que j'ai découverts dans un premier temps n'ont servi à rien, puisque le débarquement a eu lieu en Normandie et que les bunkers que je repérais se trouvaient dans les environs de Saint-Nazaire, de Douarnenez, etc. Et donc c'était des figures de l'attente. Figures de l'attente qui ont été reprises par tous les grands écrivains. Je pense à Julien Gracq dans Un balcon en forêt. Je pense à Buzzati pour le désert des Tartares. Et donc l'architecture militaire, pour moi, a une dimension religieuse. Elle attend la fin du monde, elle attend l'apocalypse.
Le bunker, c'est le geste final d'une époque de l'histoire militaire occidentale. Virilio est passionné par l'histoire militaire. Pour lui, elle a partie liée avec l'histoire de la science. Il prend cet exemple. Quand Galilée commence à utiliser une lunette perfectionnée pour observer la Lune, il écrit de suite à l'arsenal de Venise pour qu'il en achète lui aussi. Bon, ce n'est que péché véniel. Mais quand des scientifiques conçoivent la bombe atomique, n'est-ce pas, péché mortel, demandait Robert Oppenheimer. En même temps, les stratèges de la dissuasion soutiennent que les pays équipés de la bombe sont empêchés de l'utiliser. La réplique de l'adversaire les détruirait eux-mêmes. Ils ne vont pas tenter l'aventure. Virilio n'est pas persuadé. Un jour de 1980, il regarde une émission de promotion des armées menée à son de clairon par Yves Mourouzi. Et furieux, il écrit aussitôt un article dans Esprit. Il déteste entendre des généraux entretenir la peur et la surexcitation. Et sur le petit écran, il voit au loin, dans une lumière inquiétante, des engins nucléaires Pluton. Et il pense à l'accident politique toujours possible.
TF1 Actualité propose Opération Alerte. En direct, un grand exercice Interra. Opération Alerte, organisée en différents points du territoire et présentée par Yves Mourouzi. Pendant 1h30, grâce à 18 caméras implantées au ministère de la Défense à Paris, au centre opération de Pau, à la base des forces aériennes tactiques de Saint-Dizier et sur les terrains d'exercice des camps de Suippes et de Beach, vous vivrez en direct la progression de cette opération Alerte. Le 20 juin, 20h30, TF1.
France Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Paul Virilio serait un homme qui, armé de sa vigilance, attend ou pressent le retour du tragique. Mais il est aussi celui qui observe l'accélération générale.
Oui, ils attendent dans le bunker, sur le champ de manœuvre, et puis soudain, la guerre est claire. Virilio sait la différence en physique élémentaire entre vitesse et accélération. L'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse. Il va observer tous les lieux de la vie, de la ville en particulier, où se produit cette accélération. La gare, par exemple.
Il faut bien comprendre que le système urbain a été d'abord un système fermé, un système clos dans la cité rempart. Et toute l'organisation de la ville, on le voit dans les villes très anciennes, c'est l'organisation de la porte. C'est la défense des accès, c'est le filtre des voyageurs, des commerçants, c'est la tarification de l'octroi, etc. La gare ne fait finalement que développer ce principe de l'octroi, ce principe du filtre. Mais c'est une super porte, c'est une hyper porte. C'est une porte où l'on sait l'heure d'arrivée et l'heure de départ. La porte ancienne était aléatoire, il n'y avait pas d'organisation rigoureuse du temps de déplacement. Donc la gare est un lieu, je crois, de reproduction industrielle. On n'a pas pensé à quel point l'industrie s'était développée non seulement dans la reproduction du même, du semblable, en répétant des objets identiques, ça on l'a dit, mais aussi des trajets identiques, des parcours identiques, et leur reproduction constante dans le temps. Et le système ferroviaire est le modèle de l'organisation des réseaux. C'est le début de la phase
de l'accélération. Si on regarde toute l'histoire que j'appellerais logistique de la société, on a une phase qui va jusqu'au 18e siècle, 19e, on ne peut pas limiter trop étroitement, qui est la phase du frein. La deuxième phase, c'est la phase de l'accélérateur.
La gare, disait donc Virilio, elle est traversée par des trajets qu'on peut cartographier. C'est d'ailleurs des cartes de ce genre qu'il convient de faire maintenant plutôt que de répéter les cartes à l'ancienne. En fait, il n'y a plus de géographie. Classique, il y a là, vous vous souvenez du mot déjà employé, la dromologie. Thierry Pacaud.
Il ne s'agit jamais d'un objet en tant que tel. Lui qui serait un sujet, pour prendre des termes philosophiques, il essaie toujours de comprendre le trajet.
Alors objet, sujet, trajet, trajectologie.
On pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
Mais il va l'appeler dromologie.
Ah, c'est-à-dire
parce que le trajet s'effectue à une certaine vitesse, qui peut être la lenteur, mais qui peut être aussi une vitesse accélérée, démesurée.
Dromos, course.
Dromos, c'est la course en grec, et logos, c'est la connaissance. Et nous sommes donc tous dans une société dromologique. Il est persuadé que la clé explicative de notre monde machinique, c'est la vitesse.
Alors nous sommes des dromomanes saisis d'accélération.
Alors nous, voilà, effectivement, donc l'accélération ou la vitesse est la preuve de la supériorité d'un progrès par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'on mesure un progrès, on mesure une invention, on mesure un nouvel ordinateur, par exemple, au fait qu'il soit plus rapide que le précédent. Et donc, il rend obsolète la génération d'avant pour s'imposer. Donc, le critère, et lui, il trouve ça aberrant, le critère du progrès serait la vitesse.
La revue consacrée à Virilio que prépare Thierry Pacaud pour le début de 2021 sera intitulée « Dromologie ». Peut-être y sera-t-il fait l'inventaire des dromomanes invétérés que nous étions jusqu'à peu, atteints de pathologies déambulatoires. Voilà un dromomane, son compère Raymond Depardon, qui, pour préparer avec lui l'exposition « Terre natale ailleurs commence ici », c'était en 2008, a enchaîné les étapes à grande vitesse.
Paris, Washington, Los Angeles, Honolulu, Tokyo, Singapour, le Cap Paris. En seulement 14 jours et 12 nuits d'ailleurs, puisque en voyageant d'est en ouest, vous faites disparaître deux nuits, c'est finalement assez décadent de faire ça.
Ben, c'était un peu pour l'idée, c'est comme je partage cette exposition avec Paul, jouer l'horrible voyageur, je sais pas, puisque Paul dénonce la maladie de la vitesse de notre monde. Nous sommes devenus
fous. Vous en avez
fous.
Fait l'expérience, là.
Voilà, nous sommes devenus fous, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et c'est un peu par hasard, parce que bon, c'est l'agence de voyage qui m'a dit, mais pourquoi vous prenez pas un billet de tour du monde, un billet circulaire, comme ça vous payerez moins cher, vous irez plus vite. Alors je me suis dit, ben voilà. Voilà, donc j'ai imaginé un voyage pour rien. Je me suis dit, j'ai appelé Paul, je me suis dit, je vais me faire engueuler par Paul, il va me dire, t'es fou. Et au contraire... c'est un truc qui tourne, quoi. Alors, concrètement, il y a des choses très, très simples. C'est parti 14 jours, j'ai 11 factures d'hôtel. J'ai une nuit dans l'avion. Et donc, j'ai deux nuits qui ont disparu. Donc, ça montre que... Ben...
Paul Virilio disait que certains moyens de communication étaient davantage susceptibles d'être victimes d'un accident que d'autres. Il aimait jouer avec les mots et il parlait de grippe vière. Vière au sens de réseau de voies de communication. Alors, sur les réseaux... Le vélo, ça c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. La moto, il aimait beaucoup la moto, comme le chevalier aimait le cheval naguère. La voiture, le bus lui-même, mais l'avion surtout. Alors imaginez, dans une concentration métropolitaine, que survienne un accident provoqué par un bus et puis un avion va s'écraser sur un autre. Et oui, c'est une comédie musicale d'Herbert Pagani. Paul Virilio en a-t-il été le spectateur au début des années 1970 ?
Nous informons les voyageurs en partance pour Varsovie, Leningrad, Moscou que le vol 608 a un retard illimité. La compagnie Europair invite ses passagers à rejoindre les salles d'attente.
Allô, allô, 713, ici Fréquence Hélicopolis. À tous les hélicoptères en vol, attention. Donnez priorité absolue à la recherche voiture gamma bleue, transportant personnel de relève de la tour de contrôle aérodrome ouest. Au dernier top, cette voiture serait prise dans les embouteillages de l'axe nord-sud.
Désolé, on fait ce qu'on peut. Vous voyez bien que c'est une bagaille invraisemblable.
Démerdez-vous, Granier, ça urge. Si vous ne les retrouvez pas, on va la catastrophe.
Ce que je vous propose, c'est de tenter les radios. Ça paraît la seule chose utile en ce moment.
Tout ce que vous voulez tenter, tout ce que vous voulez, Granier, mais trouvez-les. Si ça craque ici, ça va craquer partout.
Minuit. 1h du matin. 2h du matin. 3 heures. Cadence d'enfer à la tour de contrôle. Les chiffres cavalent, les ailes se frôlent. L'équipe résiste, mais juste à 5 heures. Un gars de l'équipe commet une erreur. Un Bango 60 qui venait des Antilles. Et un Super Motown qui partait pour Bahia. Se prennent les ailes, s'embrassent en plein ciel.
Aïe, 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 et que va-t-il se passer ensuite? Une catastrophe s'enchaîne sur une autre. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'ère des conséquences, Stéphane Paoli?
Lorsqu'on invente le bateau, ben on invente le naufrage. Lorsqu'on invente l'avion, on invente le crash. Mais lorsqu'on met le monde en communication totale, globale, eh bien on prépare ce qu'il appelle, lui, l'accident intégral. Et au fond, la Covid-19 est une des figures de l'accident intégral aujourd'hui. Cette interdépendance qui est notre construction nous pose à tous aujourd'hui la question de ce que nous avons fait. Et nous sommes dans le temps des conséquences. Nous sommes dans le temps des conséquences pour l'environnement, pour ce que nous faisons et ce que nous continuons de faire à la planète, malgré tous les signaux inquiétants et parfois dramatiques qui nous sont envoyés. Oui, nous sommes dans le temps des conséquences. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, s'agissant de Virilio, un homme qui il y a 40 ans, disait: nous allons provoquer de terribles conséquences parce que ce que nous faisons, sans discernement, trop vite, sans réflexion, et ce langage s'applique aussi au traitement de l'information aujourd'hui, va nous conduire dans le mur. Eh ben, nous sommes dans le temps des conséquences.
Thierry Pacaud.
Tout progrès génère son accident. Au musée des arts et techniques, il faudrait adjoindre un musée des accidents, un musée des catastrophes. Et donc, il parle même d'une université
des désastres. Musée des accidents. L'idée était présentée dans une autre exposition dont Paul Virilio était le commissaire. C'était à la Fondation Cartier.
Donc, il s'agit d'entrer dans l'accumulation, dans la compilation des désastres contemporains. Non pas pour faire peur, mais pour faire face. La phrase de Freud qui inaugure la crypte de l'exposition, c'est « l'accumulation met fin à l'impression de hasard ». Et effectivement, en matière d'accident, ce qui arrive, c'est le latin de « accidens », l'accident s'oppose à la substance, etc. Ce musée est destiné à faire prendre conscience de la complexité des accidents contemporains. Je vais donner des exemples. Quand on nous dit qu'il y a un accident sur les routes en France toutes les 20 minutes, on n'est plus devant un accident conjoncturel, hasardeux, mais devant un accident structurel, statistique, cumulatif. Et ce qui est vrai des accidents de la route devient, il y a 8000 morts par an en France, devient vrai des marées noires. Après la Moco Cadiz, l'Erika, après l'Erika, le Prestige, en attendant la suite. Ce qui est vrai dans l'ordre de l'emploi est de même nature. Je prends un exemple. L'accident de l'emploi, c'était le chômage conjoncturel, lié à une guerre, lié à une crise du pétrole. Or, aujourd'hui, les licenciements, le chômage est devenu structurel. Il fait partie des plans sociaux, il fait partie de la restructuration de l'entreprise. L'entreprise intègre l'éjection de ses employés dans sa structure. Donc l'accident du chômage n'est plus un accident conjoncturel, occasionnel, hasardeux, mais structurel. Donc on est devant une mutation de l'accident. De conjoncturel, il devient structurel, et de local, il devient global, en puissance. Et c'est ce qu'utilisent d'ailleurs les terroristes pour faire peur.
Le président de la République imagine un musée du terrorisme. Mais si le musée des accidents de Virilio était devenu permanent et que Thierry Pacaud en soit le conservateur, Thierry Pacaud conservateur, qu'est-ce qu'il y mettrait ?
Il aurait montré, par exemple, tout ce qu'il ne fallait pas faire, parce que ça provoque précisément des catastrophes. Par exemple, le gratte-ciel. Le gratte-ciel, pour lui, est une impasse en hauteur, et donc c'est déraisonnable, et c'est inurbain. Alors, dans le musée, on montre les gratte-ciels. On montre un certain nombre de réalisations architecturales qui sont inhabitables ou qui sont anxiogènes. Voilà. Donc c'est un musée qui collectionne tout ce qui ne va pas, tout ce qui serait les dégâts du progrès, les dégâts non pas avoués par ceux qui sont à l'origine de ces progrès techniques, évidemment, mais par ceux qui les subissent.
Et la mer, elle est menacée aussi.
Alors,
la mer qu'il regardait depuis la Rochelle,
elle est profondément...
et où chacun pose des actes de gouvernement.
Oui, il était très très inquiet par effectivement non seulement la répartition des limites des eaux territoriales des pays, par la surpêche industrialisée d'autres, etc. Et puis par le sixième continent de plastique dans les fonds sous-marins. La Terre, le globe terrestre, est massivement aquatique, et la portion de terre des cinq continents est plus petite que l'ensemble des océans et des mers. Et pourtant, le danger croît autant, le danger même métaphoriquement d'une désertification de l'océan, croît autant que sur Terre.
Panne générale. Crash instantané. Une même émotion peut maintenant submerger au même moment plusieurs points du globe.
Un bras de la centrale 40 en super électro pagaille. L'Europe thermonucléaire reçoit partout ce choc sauvage, et à la vitesse de la lumière, la panne se propage. Et c'est France, Allemagne, Italie, Benelux, Angleterre, c'est l'Europe entière qui est plongée dans le noir en un seul instant. En un seul instant. De Madrid à Berlin, de Stockholm à Milan, de Bruxelles à Londres et de Rome à Dublin. C'est le début de la fin. Monde civilisé, tu misais sur tes câbles, l'énergie t'a manqué, te voilà misérable.
Inter. Intelligence, service.
Paul Virilio, c'est le retour du tragique et aussi celui de la panique. Monsieur Lebrun ?
Oui, les disciplines académiques, on va les faire intervenir maintenant. Elles sont généralement imperméables au tragique, mais elles peuvent être utiles pour refroidir la panique. C'est pour ça qu'à côté du musée des accidents, il faut des universités du désastre. Mais les autorités anciennes et nouvelles n'y ont pas nécessairement intérêt. Elles peuvent préférer exercer leur domination sur chacun, un par un, plutôt que de voir quantité de personnes réfléchir ensemble sur leur communauté de destin. Tenez, voici une interview de Virilio, restituée. Elle date d'il y a près de 15 ans.
Il y a eu de tout temps une administration de la peur. Qu'on se souvienne de la peur de l'an 1000 et du rôle de la religion. Ce qui est inquiétant au XXIe siècle, c'est que le terrorisme s'appuie sur les masses médias. Il ne conquiert pas des territoires, mais des écrans. La dissuasion ne s'adresse donc plus tant à des armées, mais à quiconque peut devenir un terroriste, c'est-à-dire à n'importe qui. C'est ce que j'appelle la dissuasion civile. L'anonymat de la menace fait que chacun devient un terroriste en puissance. Dans le transport aérien, pas un jour sans un incident avec les passagers. Le client, autrefois chouchouté par l'hôtesse de l'air, a viré au suspect et à l'ennemi potentiel. On multiplie les interdits. Téléphone portable ou produits liquides pourraient servir de détonateur et d'explosif. Les pouvoirs publics cherchent désormais à enfermer les gens chez eux. Les catastrophes naturelles, le tsunami, Katrina ou artificielles, AZF, les attentats de Madrid et de Londres, sont prétextes à administrer la peur publique qui est de plus en plus une peur privée. On ne craint plus l'invasion des barbares, mais chacun s'effraie d'un voisin qui pourrait faire sauter une bombe. La peur modèle même notre paysage. Autrefois, la forteresse dressait son rempart. Maintenant, tout le monde est muré dans son ghetto. Les riches comme les pauvres. Manier la peur, c'est dynamiter un jour ou l'autre la démocratie. Nous sommes en train de passer de la communauté d'intérêt national, structurée par ses classes sociales, sa critique sociale, etc., à la communauté d'émotion. Nous changeons de registre. Et la communauté d'émotion peut l'emporter sur l'intérêt public, car elle est orchestrée à l'échelle globale. Après le collectivisme de masse des règnes totalitaires, surgit la possibilité d'un individualisme de masse. Les anciens totalitarismes n'avaient pas les moyens de communication et de conditionnement pour atteindre chaque personne directement. Désormais, tout comme dans les nanotechnologies qui permettent de construire de la matière atome par atome, les nouvelles technologies de la communication politique permettent de gérer en masse, individu par individu. Le téléphone portable ou Internet nous laisse entrevoir toutes les manipulations possibles. La vie, 7 septembre 2006. Au nom d'une meilleure sécurité, allons-nous être davantage surveillés? La nouvelle proposition de loi sur la sécurité globale portée par le député LREM Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du RAID, prévoit de donner un régime juridique pour l'emploi des drones à des fins de surveillance. Or, c'est justement l'emploi des drones par la préfecture de police de Paris qu'avait formellement interdit en mai le Conseil d'État. La haute juridiction avait ordonné à l'État de cesser immédiatement la surveillance par drone de Paris. Les autorités cherchant alors à repérer tout rassemblement illégal. Ces appareils volants à une hauteur de 80 à 100 mètres et étant dotés de zoom, les conseillers avaient considéré que les images filmées permettaient de collecter des données identifiantes et ne respectaient pas le cadre de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Ouest France, 4 novembre 2020.
Alors des images peut-être faciles viennent à l'esprit de ceux qui manifestent dans les rues contre la loi dite de sécurité globale. Big Brother, crient certains. Mais la société de 84 d'Orwell, elle est austère et le pouvoir n'est qu'une source, même si elle est anonyme. Virilio, lui, penserait plus volontiers au labyrinthe du château de Kafka. Ou au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Société autrement prospère et qui prône le bonheur comme une obligation, la sexualité comme un loisir et la drogue comme une manière de finir commodément ses journées. Nous sommes en garde à vue, disait Virilio, et en même temps nous sommes des exhibitionnistes qui montrons déjà tout de notre vie intime sur le net. Thierry Pacaud.
Paul Virilio est un des premiers à avoir perçu que le monde dans lequel on entrait était plus près d'Aldous Huxley que de George Orwell. C'est-à-dire qu'on était plus près d'un monde où chacun acceptait de perdre des éléments de sa liberté pour obtenir peut-être un peu plus de jouissance ou de consommation ou d'expérience de vie que Big Brother. Il y a Big Brother, indéniablement, à un moment donné de l'histoire, certainement pendant la guerre froide, et après, on est plutôt du côté de la servitude volontaire.
Ça veut dire quoi? La tyrannie sans tyrannie? Kafka?
Oui, je dirais
c'est
Huxley.
C'est un grand lecteur de Kafka aussi.
Huxley accepte les drogues, les parfums, la sexualité libérée, entre guillemets. Tout ça, évidemment, est très discutable, puisque c'est de nouvelles formes d'aliénation. Mais c'est des aliénations qui apparaissent douces et consenties.
Nous sommes surveillés. Nous sommes déterminés. Dans quel espace nous tenir, Monsieur Lebrun ?
Eh bien, dans l'entre-deux. Entre le moment qui finit, où tombent les vieilles peaux, et le renouveau. Virilio, c'est pas un révolutionnaire, c'est un révélationnaire. Il cherche à rendre intelligible ce moment où nous sommes. On dirait dans le vocabulaire de la photo et du cinéma qu'il a affectionné que sa pensée, c'est un bain liquide dans lequel va se révéler une image nouvelle. Ou alors, si on revient à la peinture qu'il a pratiquée dans sa jeunesse, nous sommes dans cet entre-deux qui, sur une toile, sépare les objets. Dans un no time's land, comme il y a des no man's land. Thierry Pacaud.
Virilio, quand il est peintre, c'est un point important, il est maître verrier un temps, mais il est peintre, il tient même une galerie de peinture. Quand il est peintre, il travaille énormément sur les antiformes. Il appelle ça antiforme, précisément. Et l'antiforme, c'est le trajet, c'est le déplacement, c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux, c'est-à-dire c'est ce qui est en train de se terminer et ce qui n'est pas encore en train de naître. C'est ce qui se termine là parce qu'il y a un mur, c'est ce qui le poursuit de l'autre côté, etc., etc. Il dit que l'espace est un doute. C'est une notion, c'est une formule qui m'a beaucoup posé de problème parce qu'elle n'est pas simple. On aime bien les définitions cartésiennes, l'espace est ceci, c'est l'espace est cela. Et lui, dire l'espace est un doute, et j'ai compris maintenant ce que ça voulait dire, c'est que l'espace est toujours en train d'advenir.
Et Stéphane Paoli.
Paul Virilio avait cette capacité à percevoir des instants qui sont ceux où quelque chose c'est commence. Vrai. Et pour lui, l'instant, il était permanent, c'est-à-dire qu'il était un peu comme un chasseur, un peu tenait, c'est drôle, j'ai souvent pensé à Cartier-Bresson, en regardant Paul Virilio marcher, penser, parler. Il y avait quelque chose de l'instant décisif dans la pensée de Paul Virilio. Cet instant incroyable, très difficile à saisir, surtout quand on n'est pas Cartier-Bresson, c'est le moment absolu où il y a le maximum d'intensité. Eh ben, Paul Virilio, il était en recherche permanente de ça. C'est une forme de chasseur.
On comprend que Virilio a contribué à changer la vie de Stéphane Paoli. Journaliste à France Inter, il n'était pas dupe de l'actualité en temps réel, telle qu'il fallait la lui traiter. Mais comment être le surjournaliste qu'appelait de ses vœux Virilio et qui aurait su intégrer à l'immédiat, la longue durée, toutes les interactions du réel ? Paoli n'a guère connu d'impression plus forte que celle ressentie en entrant dans l'église Sainte-Bernadette de Nevers, construite par Virilio jeune. On a besoin, en effet, de toit pour le silence, l'expression est de Virilio, de halte spirituelle qui jalonne heureusement notre monde, des phares qui l'éclairent et qui marquent aussi les limites de cette terre trop petite pour le progrès tel que nous l'avons conçu.
Le tragique est une alerte. Le tragique est un signal fort qui doit nous faire réagir. Et d'ailleurs, enfin, le théâtre, c'est le moteur du théâtre, le tragique, évidemment.
Le théâtre grec.
Notamment, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de considérer ce que le théâtre grec a fait du tragique. Le théâtre grec, au fond, il a quelque chose de... Ben d'abord, c'est une vision systémique du monde où les humains que nous sommes et les dieux sont capables de se voir, de parler ensemble et quelquefois même d'aller un peu plus loin. Ce tragique crée les conditions du tragique, mais crée donc en permanence pour nous autres, enfin, c'est ce qui me semble, les conditions de l'alerte, les conditions de la limite. Je reviens à cette fascination qu'il avait pour le bord de mer, la fragile liaison entre l'eau et le sable, de la même façon entre l'horizon et le ciel, le moment où se confondent les deux choses et où on peut tout à fait avoir le sentiment d'être perdu. Eh ben, on est là quelque chose qui nous approche du tragique, qui est la disparition des limites. qui nous fait basculer peut-être là où nous ne devrions pas être. Et j'ai appris que, je ne le savais pas ça, j'ai appris ça récemment, que dans l'Antiquité grecque, l'hubris était puni comme un délit. On pouvait aller en tôle si on se prenait pour un dieu.
Il ne s'agit pas de la fin du monde, l'apocalypse, il s'agit de la finitude. La finitude, c'est qu'une pomme n'est qu'une pomme, qu'un homme n'est qu'un homme, et qu'une terre n'est qu'une terre.
On a entendu le mot « apocalypse ». On a fait parfois de Virilio un collapsologue qui prévoirait un effondrement rapide, la falaise roulerait sur elle-même, elle irait à la mer sans qu'il y ait d'autres avenirs possibles. Apocalypse, Virilio l'entend dans le sens chrétien. On ne l'a pas dit jusqu'ici, mais volontairement, parce qu'il n'était aucunement prosélyte, Virilio était profondément chrétien. Alors, Apocalypse, pour lui, ça voulait dire non pas la fin du monde demain, mais la révélation d'une vérité et la radicalisation des enjeux. Et on en est là. Remerciements à Stéphane Paoli qui publie « Au lien qui libère ce qui vient » et à Thierry Paco qui prépare pour le début de l'année 2021 le premier numéro de la revue « Dromologie ». La prise de son, Yvan Turc. Et ici, en studio, Andreas Jaffré et Maïwenn Le Géant. Les lectures, Grégoire Roqueplot. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation était signée Audrey Ripouille.